Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le vendredi 19 novembre.
Merci à vous, merci chers auditeurs de votre fidélité.
Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, 60 000 de plus exactement sur un an, et ça nous va droit au cœur. Merci infiniment.
Ce vendredi, Julien.
Payer pour ne plus faire de vagues, voilà ce que va faire le gouvernement français. Indemniser les pêcheurs privés par le Royaume-Uni de licence pour jeter leurs filets dans les eaux britanniques, visiblement riches en couleuvres.
Et puis il y a cette courbe à la hausse.
C'est l'autre flambée qui inquiète avec celle des contaminations au Covid, la flambée des prix à la consommation. L'inflation touche tous les secteurs et contrairement à ce qui nous avait été annoncé, ça pourrait durer au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine, reconnaît Bruno Le Maire. Quelles conséquences pour nos salaires, nos épargnes et plus généralement notre économie? Est-ce que l'inflation menace la reprise? Autant de questions que l'on posera à 6h10 à l'économiste Olivier Babeau. Il était le prince bleu de Montmartre. Un livre, Omblin, rend hommage à Michou.
Hommage à l'homme, le prince des nuits parisiennes, mais également à son cabaret rue des Martyrs dans le quartier de Montmartre. Dans ce livre, ce beau livre, La nuit en bleu, cabaret Michou, l'esprit d'un mythe, on pénètre dans les coulisses de ce temple de la fête et du transformisme.
On découvre l'histoire de Michel Cathy, devenu Michou, un homme né à Amiens, devenu un personnage incontournable de la capitale.
Le tout Paris se presse au cabaret Michou pour ses spectacles constamment renouvelés, pour son ambiance festive et bon enfant. On y croise par exemple Jean-Claude Brialy, Charles Aznavour, Liza Minnelli ou Lynn Renault. Nous serons à 5h40 avec la gardienne du Temple Bleu depuis que Michou a disparu il y a presque 2 ans, sa nièce Catherine Jacquard.
Et puis votre partition pour conclure ce 5h-6h30.
Une histoire singulière de la musique pop. Grandeur et décadence du duo Milli Vanilli au début des années 90, le scandale du playback à 6h20.
Voilà qui promet, voilà pour une partie du programme. On commence avec la météo, Anissa Haddadi. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la météo sous Milli Vanilli?
Ah, avec plaisir, c'était mon adolescence.
Bah alors attendez, on va recaler
en
ça.
En plus j'ai des bonnes nouvelles à annoncer, donc
si
sur Milli Vanilli, c'est
possible.
Pas mal du tout. Voilà. Très bien. Avec un petit
donc
déhanché.
Tout ça pour dire qu'il va faire gris aujourd'hui.
Alors attendez.
Bon, on a du soleil dans le cœur du coup.
Non, attendez Julien, on a de la grisaille ce matin. Effectivement, c'est le même scénario qu'hier avec de la grisaille sur les trois quarts du pays. Soyez
prudents.
C'est
pas du tout crédible. Je suis désolée, mais c'est...
Vous voulez me remettre ma petite musique de météo? Voilà, bon, allez, c'est plus crédible. J'ai déjà pas mal de messages d'auditeurs qui sont sur la route et qui galèrent avec les brouillards. Donc soyez encore prudents, ça concerne les trois quarts des régions. En fait, le seul endroit où on a du soleil ce matin et où le ciel est dégagé en cette fin de nuit, c'est le sud de la France et le pourtour méditerranéen. Alors cet après-midi, attention, le soleil va envahir le pays. Vraiment, on va avoir du grand et beau soleil dans un ciel dégagé, sauf pour la Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne et le Grand Est. Là,
okay.
Ça reste gris.
Donc
une
la moitié de la France, quoi.
Partie de la journée. Non, vraiment, pour les régions situées au nord de la Loire, ça sera un petit peu compliqué cet après-midi, mais partout ailleurs, de l'Aquitaine jusqu'à la Provence, en passant par l'Auvergne ou encore les Alpes, il fait très beau. On a des petites gelées ce matin, -2 à Auch, -1 à Clermont-Ferrand, 0 à Toulouse, 4 à Bordeaux, 7 à Paris et Marseille et 12 à Dunkerque.
Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 5h.
C'était notre deuxième saison de pêche. On s'attendait à pouvoir enfin peut-être se payer sur une deuxième année. Et on se retrouve au mois de novembre à quai. Voilà, c'est triste.
L'amertume et la colère des pêcheurs normands et bretons privés de licence pour jeter leur filet dans les eaux britanniques. Ils sont 150 et le gouvernement leur propose un chèque en échange de la destruction de leur bateau. La France s'avoue vaincue face à l'inflexibilité du Royaume-Uni. Emmanuel Macron de retour sur ses terres natales, les Hauts-de-France pendant 4 jours. La région que tous les candidats à la présidentielle ou presque draguent. Quel enjeu pour le chef de l'État? Décryptage à suivre. Et puis la cinquième vague de l'épidémie continue de déferler en Europe. L'Allemagne emboîte le pas à l'Autriche et prive à son tour de concerts et de restaurants les non-vaccinés.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le premier journal de ce vendredi vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Dans les ports normands et bretons, il y a des pêcheurs en colère après les annonces d'Annick Girardin, la ministre de la Mer, hier. Elle propose à ceux qui n'ont pas obtenu leur licence de pêche dans les eaux britanniques un plan de sortie de flotte. Comprenez, détruire leur bateau en échange d'un chèque. Sur les quais de Saint-Malo, le sentiment de trahison domine. Reportage Charles Guyard.
Voilà, c'est dans l'ouest de Jersey, tu vois, c'est... 19h, les quais de Saint-Malo sont plongés dans la nuit noire. Maxime Prével et ses hommes déchargent des caisses d'araignées pêchées autour de Jersey et Guernesey. C'est la fin d'une longue et laborieuse journée, mais ce capitaine aime cela. Hors de question pour lui de troquer son boulot sur ce bateau de 16 mètres contre une indemnité.
C'est mon métier, j'aime mon métier. Et non, je préfère aller en mer et aller gagner le fruit de mon travail. Normalement, il y avait un traité jusqu'en 2025. Et enfin, là, on s'est déjà bousculé. On n'est que en 2021 et on a l'impression que la France baisse les bras. Bah, ça fait penser un peu à un renoncement. Ouais. Ça fait peur.
Julien Camus, lui, est plus qu'amer. Sa licence pour remonter de la Saint-Jacques des eaux britanniques n'a pas été renouvelée cette année pour des raisons qui lui échappent. Son bateau qu'il a acheté récemment est loin d'être remboursé forcément. Il doit pourtant rester au port, un cauchemar.
On a acheté ce bateau exprès parce qu'il avait ce sésame en fait pour pouvoir aller dans les eaux anglaises. C'était notre deuxième saison de pêche. On s'attendait à pouvoir enfin peut-être se payer sur une deuxième année et on se retrouve au mois de novembre à quai. Voilà, c'est triste.
Une situation intenable pour les pêcheurs bretons et normands qui réfléchissent à des actions à mener à terre ou en mer. Saint-Malo, Charles Guyard, Europe 1.
Et Yannick Girardin le promet, les négociations continuent tout de même avec Londres pour tenter d'obtenir les 150 licences restantes.
Nous voilà rassurés. Emmanuel Macron de retour sur ses terres, des terres très disputées par de nombreux candidats à la présidentielle.
Les Hauts-de-France, c'est aussi le fief de l'un de ses potentiels adversaires, Xavier Bertrand. Le président y restera 4 jours. Premier rendez-vous cet après-midi à Aulnoy-Aymeries, puis Jacques Serret à Guise.
Oui, en cette fin de quinquennat, Emmanuel Macron veut multiplier les déplacements qui durent plusieurs jours. Le chef de l'État a particulièrement apprécié ce format lors de sa visite à Marseille en septembre. Alors après Aulnoy-Aymeries, puis Guise cet après-midi, le locataire de l'Élysée devrait passer le week-end dans sa maison familiale du Touquet avant de se rendre lundi à Amiens. Amiens, sa ville natale qui avait marqué la campagne de 2017 avec le combat des salariés de l'usine Whirlpool. Et cette année encore, les Hauts-de-France pourraient être la région au cœur de cette élection présidentielle. Xavier Bertrand est le président de région, Marine Le Pen est députée du Pas-de-Calais. Des paramètres loin d'être ignorés du côté de l'Élysée. Et à 5 mois du scrutin, même s'il n'est pas encore déclaré candidat, Emmanuel Macron ne va surtout pas se priver de chasser sur les terres de ses adversaires.
Jacques Serret du service politique d'Europe. Emmanuel Macron accorde un entretien à La Voix du Nord. Le président revient notamment sur la question migratoire à Calais. Plusieurs ministres feront des annonces dans les prochaines semaines.
L'immigration qui est devenue un thème central de cette pré-campagne présidentielle.
Oui, hein, à droite comme à gauche, tous les candidats donnent leur point de vue. Comme hier soir dans 20h22 sur France 2, Yannick Jadot, le candidat vert, n'a pas échappé à l'exercice.
Moi, je ne vois pas de problème avec l'immigration en France.
Là,
aujourd'hui.
C'était la question.
On a les réfugiés. Ça relève de notre devoir d'humanité, ça relève de nos obligations au regard du droit européen, au regard du droit international. Il y a le regroupement familial, ça relève de nos obligations humaines, ça relève de nos obligations au regard du droit international. Quand j'entends la droite dire « on va réduire de 2/3 le regroupement familial », qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, le regroupement familial, c'est la famille proche, c'est pas votre cousin, c'est vos enfants, c'est votre femme. Donc en fait, quand on écoute les Républicains, on prend 1 enfant sur 3. C'est totalement absurde. Et puis, il y a l'immigration économique. Moi, j'aimerais que les candidats républicains nous expliquent, les candidats, les républicains, parce que je pense qu'ils n'ont plus grand-chose de républicains, nous expliquent comment on fait avec les 30 000 médecins migrants qui font tourner l'hôpital public aujourd'hui.
Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts.
5 heures passées de 5 minutes sur Europe 1. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, à la barre hier au procès des attentats du 13 novembre 2015.
Pour expliquer à la Cour d'assises comment ont été commandités les attentats, des enquêteurs de la DGSI ont témoigné en décryptant le mode de fonctionnement d'une cellule spéciale de l'État islamique chargée d'organiser, Gladys Laffitte, les attentats à l'étranger comme ceux du 13 novembre.
Oui, une structure secrète qui était dirigée par de hauts cadres de l'État islamique, dont un Belge, accusé au procès mais présumé mort. Elle disposait de son propre budget de fonctionnement, de moyens supérieurs, une véritable industrie des attentats projetés, dont l'un des exemples les plus aboutis est le 13 novembre, a expliqué un enquêteur des renseignements français. Il témoignait de manière anonyme. Les membres de cette cellule sont des combattants aguerris. Certains viennent du bataillon des forces spéciales de l'État islamique, comme un autre des accusés, présent, lui, au procès. D'autres de groupes particulièrement cruels, comme Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des attentats. La Cour a pu voir le quotidien barbare, je cite, de son équipe en Syrie, comme sur cette vidéo glaçante où le Belge tracte des cadavres derrière un pick-up en faisant des blagues. Les djihadistes ont ensuite toute latitude pour décider des cibles une fois sur le terrain. Leur chef valide ensuite leur choix. Quand ils quittent la Syrie, je pense qu'ils ne savent pas qu'ils vont frapper des terrasses ou le Bataclan et que ce sera le 13 novembre, a expliqué l'enquêteur.
Merci Gladys Laffitte du service Police-Justice d'Europe 1.
Pas de confinement des non-vaccinés à l'ordre du jour, c'est en tout cas ce que promet Emmanuel Macron.
Oui, ils sont un petit peu plus de 10% en France. L'exécutif veut les convaincre. La campagne de rappel bat son plein aussi, si bien que les vaccinodromes vont rouvrir pour éviter un scénario à l'autrichienne où tous les non-vaccinés sont confinés depuis lundi. L'Allemagne aussi serre la vis. Angela Merkel les prive de restaurants ou encore de concerts.
Notre unité de mesure, c'est l'indice d'hospitalisation. Quand il est supérieur à 3 malades hospitalisés pour 100 000 habitants, alors la règle des 2G doit être appliquée dans toute la région. C'est-à-dire qu'il faut être vacciné ou testé pour participer à des événements publics. Vacciné ou guéri.
Angela Merkel, la chancelière allemande.
On passe au rugby avec la plus belle des affiches, en tout cas depuis 3 ans et demi, c'est France-Nouvelle-Zélande.
Demain soir, à 21h, au Stade de France, en clôture de la tournée d'automne, pour affronter les Blacks. Fabien Galthié, le sélectionneur, a choisi une équipe solide physiquement, mais des Bleus peut-être encore un peu verts, Axel May.
Oui, avec 25 ans et 18 sélections en moyenne, l'équipe alignée par Fabien Galthié est encore jeune et certains n'ont même jamais rencontré un All Black de leur vie. Le deuxième ligne, Thibaut Flamand, a entraîné le maillot bleu lors de cette tournée d'automne et espère bien le porter de nouveau demain au Stade de France.
Comme jeune joueur, un peu au début de sa carrière, c'est intéressant de pouvoir se confronter à eux et de pouvoir en tirer des leçons. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
L'impatience aussi de Romain Tamac qui sera demain l'ouvreur titulaire. Avoir la chance de jouer un match contre eux en France, c'est magique, explique le Toulousain. Ancien international et actuel manager des Bleus, Raphaël Ibanez connaît bien ces Néo-Zélandais.
France-Nouvelle-Zélande, c'est incontestablement ouvrir les livres d'histoire, c'est écouter les témoignages diverses générations. Ça donne un relief particulier. Après, est-ce que c'est vraiment significatif pour cette génération, pour ces joueurs-là qui, samedi soir, vont affronter les Blacks?
Alors rappelons que les Bleus n'ont plus joué contre les Blacks depuis une tournée catastrophique en juin 2018 et n'ont plus gagné depuis juin 2009.
Axel May du service des sports d'Europe 1.
Voilà qui est encourageant.
Ouais, si vous êtes en région parisienne, il reste des places pour encourager les Bleus au Stade de France demain soir. On attend 79 000 supporters dont le pass sanitaire sera contrôlé. La fédération conseille de venir très très tôt pour ne pas louper le début du match.
C'est toujours mieux. Merci beaucoup Alban Le Prince pour ce journal.
Il est 5h09 sur Europe 1, l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses ce soir en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 112 Grâce du Dijon. En plein boom depuis plusieurs mois, il reste notamment sur 2 faciles victoires, le 14 octobre à Enghien, puis le 11 novembre à Vincennes, sur le même parcours que celui qu'il empruntera ce soir, et force est de reconnaître que le style avec lequel il s'est imposé en dernier lieu me laisse à penser qu'il doit pouvoir réaliser la passe de 3 sans aucune difficulté. Alors notez bien, pour ce soir à Vincennes, réunion 1 dans la première course, le numéro 12, Grâce du Dijon.
Quel joli nom, Grâce du Dijon. Merci beaucoup Thierry Léger, vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. C'est vendredi, il est 5h10, vous écoutez Europe 1, on vous en remercie. Et on revient dans moins d'une minute avec le pressing.
Et 3 histoires au moins à lire dans la presse ce matin, des policiers 20 debout. Bon, le destin tragique de Gucci et des hommes qui se font rares à tout de suite.
Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bon réveil avec Europe 1, c'est l'heure du pressing à 5h10 et l'heure de retrouver Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Robin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin, on commence avec les unes de vos journaux et cette question posée par Aujourd'hui en France. À quand la troisième dose pour tous? Malgré la forte reprise de l'épidémie, on en parlait à l'instant, le rappel est pour l'heure réservé aux plus de 65 ans. Pourquoi attendre pour le généraliser, ce rappel, se demande Le Quotidien. Présidentielle, la droite recommence à y croire, titre pour sa part Le Figaro qui publie un sondage. 75% des sympathisants LR estiment que le candidat investi à l'issue du congrès pourrait remporter l'élection présidentielle, congrès prévu le 4 décembre. Et puis on veut tous faire du beau jeu, gagner 5-0, c'est la citation à la une de l'équipe qui publie une interview de Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, à la veille du match face à Nantes. Voilà pour les unes, Martin. Quel article avez-vous déniché ce matin ?
Eh bien, une étiquette de bouteille de vin qui provoque l'indignation des syndicats policiers. L'étiquette en question, elle a été dessinée dans les années 90 par Charb, l'ancien patron de Charlie Hebdo, hein, tué par les frères Kouachi en 2015, et elle a été offerte à un ami viticulteur. Alors, sur cette étiquette, on peut voir un policier visiblement ivre, avec un gros nez rouge et qui déclare que cette bouteille est le partenaire de ses bavures. C'est irrévérencieux, c'est du Charlie, évidemment, mais ça ne plaît pas du tout aux syndicats policiers, notamment à celui des commissaires, hein, qui jugent que cette étiquette est une insulte à la profession. Il a demandé, le syndicat, à l'enseigne Carrefour, dans laquelle cette bouteille a été prise en photo, de la retirer de ses rayons. Dans la foulée, le syndicat Alliance, l'un des plus gros syndicats policiers, a aussi réagi avec un peu plus de nuances. Nous espérons que Carrefour et Charlie Hebdo lèveront le coude à la santé et en l'honneur des policiers blessés pour protéger la République, ajoutant le hashtag liberté d'expression.
Et le viticulteur dans tout ça, qu'est-ce qu'il en pense ?
Eh bien, il est un peu dépassé par toute cette polémique. Ça fait des années que Gérard Descamps vend ses bouteilles avec ses étiquettes. Alors pourquoi font-elles autant parler aujourd'hui en 2021 ? Il a en tout cas reçu le soutien de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Certains, comme le journaliste Philippe Lançon, ont salué un hommage involontaire à Charb. Ça l'aurait bien fait marrer, écrit-il sur Twitter, quand d'autres menacent même de boycotter Carrefour si l'enseigne retire les bouteilles de ses magasins. Accusé de ne pas être Charlie, le syndicat des commissaires s'est défendu. Cela n'a rien à voir avec le dessin de Charb, mais les policiers sont assez attaqués pour ne pas laisser dire qu'ils sont alcooliques. Toujours sur Twitter, le journaliste spécialiste des vins, Dominique Hutin, a tenu à rappeler que ces étiquettes Made in Charlie étaient un pan de l'histoire. Et oui, selon lui, celle incriminée a plus de 30 ans et ce n'est qu'une parmi d'autres. Reiser fut le premier en 1974, bientôt imité par Volinsky, Cavana, Choron, Ciné, Willem, pour ne citer que. Gérard Descamps était en fait un proche de la rédaction de Charlie Hebdo, d'où toutes ces étiquettes décapantes. Cette étiquette de vin, à boire avec modération, évidemment, indigne un syndicat de police, c'est à retrouver sur le site du Huffington Post.
On ne peut plus dire grand-chose, on ne peut plus dire ou faire quoi que ce soit sans que ça provoque une levée de bouclier un peu partout.
C'est drôle, surtout. Voilà.
Oui, voilà. Je pense qu'il ne faut pas aller au-delà.
Voilà, non, c'est ça, exactement.
Il faut juste en rester...
Et puis faire confiance aux gens, ils sont peut-être suffisamment intelligents pour ne pas faire d'amalgame.
Exactement.
C'est dit. Merci Martin, Omblin, c'est à vous.
Le coup de projecteur de Paris Match sur un film très attendu qui sortira la semaine prochaine dans les salles. Tous les ingrédients sont là. Amour, gloire, beauté, argent et assassinat commandité. Sauf que l'histoire est vraie. House of Gucci avec Lady Gaga et Adam Driver raconte le destin tragique de Gucci, monument de la mode italienne. Tout commence par une histoire d'amour, comme un conte de fées peut nous en raconter beaucoup. Maurizio Gucci rencontre Patrizia en novembre 1970. Il fait sa demande en mariage lors du deuxième rendez-vous, contre l'avis de son père,
c'est rapide,
qui le congédie sur le champ et sans un sou. Maurizio trouve refuge dans la famille de sa nouvelle épouse. Tous les deux, très amoureux, s'épanouissent, fondent une famille, forment le couple star des années 70. L'argent coule à flot, la vie s'écoule, la dolce vita, la vie s'écoule tranquillement entre Milan, New York, les soirées, les yachts. Maurizio Gucci finit par prendre la présidence de la maison de couture Gucci, fortement poussée par Patrizia, qui depuis la rencontre l'a toujours encouragée. L'enfer débute à la mort du père, Rodolfo Gucci, lorsque Maurizio récupère logiquement 50% de l'empire familial. Et cette prise de pouvoir le change. Il ne supporte plus l'influence que sa femme a sur sa vie, qu'elle soit personnelle, mondaine ou professionnelle. Les crises, les disputes se multiplient. Le soir de Noël 1985, ils en viennent aux mains. Maurizio saisit Patrizia par le cou. Le lendemain, il s'envole pour la Suisse et somme son médecin d'annoncer à sa femme qu'il ne reviendra pas. S'enclenche alors une bataille judiciaire pour la garde de leurs deux filles. Elle va durer des années. La jalousie se met à aveugler Patrizia, nourrie par la crainte que son ex-mari se remarie et donne un nouvel héritier. Le coup de trop, c'est lorsque Maurizio perd le contrôle de la maison de couture Gucci. À partir de là, c'est l'escalade jusqu'au meurtre commandité. Maurizio Gucci est abattu de 4 balles. Patrizia est reconnue coupable 2 ans plus tard et écope de 26 ans de prison. Elle en fera 16. Le film House of Gucci de Ridley Scott raconte ce drame funeste, mais avec une volonté d'évoquer l'obsession, la passion, la jalousie destructrice plus que les affaires. Lady Gaga explique qu'au-delà d'incarner une femme avide de pouvoir, dépensière et meurtrière, elle a voulu montrer la femme amoureuse, délaissée, avec comme question finale, je cite, « Qu'arrive-t-il lorsqu'on pousse quelqu'un à bout ? Le pire dans le cas de Patrizia Gucci. L'histoire sanglante et Patrizia la diabolique, c'est dans Paris Match. »
Merci beaucoup, Omblin. Et ça sort quand, rappelez-nous ?
Mercredi prochain.
Mercredi prochain. J'ai choisi pour ma part un article de l'Express qui nous emmène en Norvège. Ses fjords à flancs pentus, ses saumons dodus et goûtus, et ses assistantes maternelles barbues. Que dis-je ? C'est le mot le plus neutre qui accompagne la révolution silencieuse en cours, celle de la masculinisation du secteur de la petite enfance. Laissez-moi terminer, enfin. Alors, il faut déjà préciser qu'on est ici chez des champions de l'égalité homme-femme. La Norvège est dans le top 5 des pays où les écarts de salaire entre les deux sexes sont les plus faibles, aux alentours de 4%. Chez nous, c'est près de 5 fois plus, donc profil bas. Non content de ces bons résultats, le gouvernement norvégien s'est lancé il y a quelques années un nouveau défi, inciter les hommes à choisir des métiers très féminisés. Une loi a même été votée, texte Martin qui vous donne la priorité sur Omblin, par exemple, si d'aventure vous souhaitiez faire carrière dans la puériculture. Mmh. Et c'est ainsi que dans les crèches norvégiennes, il n'est pas rare désormais d'y croiser de solides gaillards aux allures de vikings sanguinaires en train de donner des biberons ou de lire des comptines. Il représenterait plus de 10% des effectifs contre 1,5% en France. Notre pays qui, on l'a compris, n'est pas franchement à la pointe sur ces sujets. Peut-être parce que, justement, on n'aborde qu'une partie du problème, le manque de femmes dans les secteurs très masculinisés ou aux postes à responsabilité. Mais quid des hommes qui sont à l'inverse sous-représentés dans les professions de santé ou de service à la personne, dans le secteur de l'éducation ou de la justice ? Eh bien, rien. Circuler, il n'y a pas une barbe à voir. Voilà pourquoi nous évoluons dans un marché du travail ultra-genré. Sur les 87 grandes familles de métiers identifiées par le ministère du Travail, seules 18 sont réellement mixtes. Résultat, plus des trois quarts des professeurs des écoles, psychologues, infirmiers, aides-soignants, vétérinaires, juges ou encore greffiers sont occupés par des femmes. Or, cette tendance pourrait encore s'accentuer dans la décennie qui vient avec les départs à la retraite des baby-boomers et les choix d'orientation dans certaines filières du supérieur. Je vous donne quelques exemples. Rentrée universitaire l'année dernière, 84% des étudiants en première année de médecine étaient des étudiantes, 72% en première année de droit et de sciences politiques. En clair, les barbes se font rares dans certains amphis et cela inquiète les représentants des professions concernées, notamment l'ordre des médecins. Non pas que les femmes soient moins compétentes, bien au contraire, mais qu'on le veuille ou non, nous sommes différents, nous ne faisons pas les mêmes choix. Or, les femmes médecins préfèrent exercer en ville ou à l'hôpital plutôt que dans des cabinets à la campagne. Oui. Le manque de parité croissant en médecine accélère donc la désertification médicale. Éducation, santé, justice, où sont les hommes ? C'est à lire dans l'Express.
C'est extrêmement intéressant, hein, ce modèle. Alors quand on pousse d'un côté, en fait, la balance...
Bah, il faut faire les deux en
même
temps.
Il faut maintenir l'équilibre.
Déconstruire les identités des métiers,
exactement.
Les genres des métiers.
Oui, tout à fait. Merci.
Bah,
Et il se termine bien ce pressing du jour. Martin, à tout à l'heure, dans 40 minutes, pour le journal des sports.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, les principaux titres de ce vendredi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Le confinement des non-vaccinés n'est pas nécessaire en France. Emmanuel Macron rassurant face à la cinquième vague de Covid qui déferle sur l'Europe. En Allemagne, Angela Merkel, elle, hausse le ton. Ceux qui n'ont toujours pas reçu de dose ne peuvent plus accéder aux lieux publics comme les restaurants. Macron sur ses terres pour 4 jours. Le président se rend dans les Hauts-de-France à partir de cet après-midi. Une région qui est, elle aussi, celle de ses adversaires comme Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Dans le Nord, justement, l'activité de l'emblématique usine Ascoval de Saint-Saulve reste en France. Son propriétaire renonce finalement à transférer temporairement une partie de sa production en Allemagne où les hauts fourneaux tournent au charbon, bien moins cher, mais aussi bien plus polluant. Et puis, des centaines d'Irakiens ont quitté hier la Biélorussie où ils étaient bloqués à la frontière polonaise. Ils ont été rapatriés, tandis que les autres migrants ont été relogés hier dans un centre logistique situé à proximité.
Il est 5h20. Très bon réveil à tous avec, à présent, les initiatives en France. On met en lumière chaque jour celles et ceux qui font bouger les lignes.
Bonjour Emmanuel Bourset.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le cofondateur et président d'Un Seul Geste, une entreprise qui propose des formations au premier secours en réalité virtuelle. Expliquez-nous.
Eh bien, c'est très simple. Je vais vous donner un exemple. Si vous rentrez chez vous tout à l'heure et que sur le trottoir, une personne est allongée en arrêt cardiaque, ses chances de survie sont de 5% en France, alors qu'en Norvège, ce serait 40%. Donc on a créé D'un Seul Geste en partant de ce constat très simple. Trop peu de Français savent pratiquer les gestes à faire en cas d'urgence. Et donc on a conçu une solution technologique hyper innovante qui permet, donc à l'aide de la réalité virtuelle, comme vous l'avez dit, d'apprendre les gestes de premier secours de manière extrêmement rapide et surtout efficace.
Alors avant qu'on en arrive à l'explication concrète de votre solution, j'aimerais juste qu'on revienne sur les chiffres que vous venez de nous donner. 5%, c'est très très peu, 5% de chances qu'on puisse sauver quelqu'un en arrêt cardiaque aujourd'hui en France ?
Alors c'est très peu, et puis surtout on a l'exemple de pays voisins qui montrent qu'on peut faire beaucoup mieux. Et ça s'explique malheureusement très facilement, cette différence de chiffres. On a en France 20% des citoyens qui sont formés à faire ces gestes, chez nos voisins européens. En Allemagne, en Autriche, c'est 80%, et dans les pays nordiques, c'est 90-95%. Moi j'ai l'habitude de dire que là-bas on apprend à marcher et à masser, c'est presque vrai. Et donc il faut absolument qu'en France, on arrive à avoir plus de personnes formées et surtout prêtes à passer à l'action, parce que en cas, par exemple, d'arrêt cardiaque, au bout de 4 minutes, votre cerveau, s'il n'est pas irrigué en oxygène, vous allez avoir des séquelles neurologiques à vie. Et donc les secours mettent en France en moyenne 12 minutes pour arriver. Donc il faut absolument que les citoyens qui sont les premiers devant cette situation d'urgence puissent faire ces gestes qui sont très simples. Encore faut-il pouvoir les avoir appris et s'y être entraîné pour être prêt à les faire.
Alors justement, c'est là où vous intervenez avec votre formation au premier secours en réalité virtuelle. Expliquez-nous comment ça marche.
Alors, on garde le mannequin de secourisme que tout le monde connaît, et puis on ajoute à l'apprenant un casque de réalité virtuelle. Les deux sont connectés et ça va permettre d'être mis en situation de façon très réaliste, puisque à la place du mannequin, on va voir une victime. Et donc, on va faire vivre des situations d'urgence aux personnes pour qu'on apprenne les gestes, on les pratique en situation d'urgence, et puis on va ressentir des sensations, des émotions. Et ça, c'est super, parce que c'est ce qui fait que c'est la mémoire émotionnelle qui va mémoriser tout ça, tout cet apprentissage, et c'est la mémoire la plus durable. Donc, on profite des avancées sur les neurosciences pour pouvoir améliorer ce type de formation. Et c'est là que l'usage de la réalité virtuelle prend tout son sens. On va être mieux préparé grâce à l'immersion, grâce aux sensations, on va mieux retenir. Et le jour où on est face à une situation d'urgence, et ben en fait, le passage à l'action va être un peu plus simple.
Quand on met le casque de réalité virtuelle et qu'on a le mannequin à ses genoux, qu'est-ce qu'on voit exactement ? C'est-à-dire qu'il y a un vrai visage qui apparaît à la place du mannequin ? Il y a des passants éventuellement tout autour ? Des plaies sanguinolentes éventuellement ?
Oui, pour l'environnement réel, non pour les plaies sanguinolentes. Si vous voulez, en fait, l'objectif d'un seul geste, c'est vraiment de vous préparer, mais pas de vous faire peur. Donc, en fait, si on met du sang, etc., on va passer en mode panique et on ne va pas être réceptif sur la formation. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est une formation qui est très rapide. Ça dure une heure par personne. On fait ça sur le lieu de travail des gens. On va vraiment où sont les gens dans l'entreprise. Et l'idée, c'est très rapidement de pouvoir former un grand nombre de personnes. Voilà.
Justement, vous avez formé combien de personnes jusqu'à présent ? Je crois que votre entreprise date de 2018. Vous l'avez ouvert en 2018, c'est ça ?
Alors, on a lancé l'entreprise en 2018, on a commencé à commercialiser les premières formations à l'été 2019, et puis le Covid a ralenti un petit peu tout ça, mais on a déjà formé des milliers de personnes sur tout le territoire, et puis surtout, en fait, notre innovation, on veut pas la garder pour nous, donc on la met à disposition de tout organisme de formation qui a envie de l'utiliser, et donc on travaille, par exemple, notre innovation est utilisée aujourd'hui par des associations de secouristes, par les sapeurs-pompiers, par des formateurs indépendants, et par des entreprises qui ont leurs propres formateurs et qui l'utilisent pour former leurs salariés.
Les entreprises, elles ont des objectifs à respecter en termes de salariés formés au premier secours ?
Alors oui, tout à fait, notamment dans l'industrie et dans le BTP, mais plus globalement, les entreprises, toutes les entreprises ont deux obligations. La première, c'est d'assurer la sécurité de leurs collaborateurs et de leur proposer des formations au premier secours. Et puis la deuxième obligation, elle est récente, elle date du mois d'avril de cette année. Toutes les entreprises doivent former au geste de premier secours leurs collaborateurs avant leur départ en retraite. Et tout ça, ça s'inscrit dans un plan du gouvernement qui doit nous permettre d'arriver à 80% des Français formés d'ici 2027. Et donc, par exemple, la formation est aussi devenue obligatoire pour tous les fonctionnaires, quelle que soit leur collectivité ou leur autorité de rattachement.
Dernière question pour terminer rapidement. Le bon rythme pour un massage cardiaque, c'est toujours Staying Alive des Bee Gees ?
Le bon rythme, c'est toujours Staying Alive des Bee Gees. Il faut faire 100 à 120 compressions à la minute. Donc, si vous avez ce rythme-là dans la tête, c'est parfait.
Merci beaucoup Emmanuel Bourset de nous avoir présenté votre initiative. Des formations au premier secours en réalité virtuelle, ça s'appelle D'un seul geste. Très bonne journée à vous et à bientôt.
À bientôt, bonne journée.
Europe Matin, on Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon réveil à tous, il est 5h et bientôt 28 minutes. Quel est le programme de la prochaine demi-heure, Omblin ?
La prescription culture du vendredi est musicale.
Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance.
Elle est consacrée à Orelsan. Il a dévoilé avant-hier un tout nouveau titre, L'odeur de l'essence, que vous entendez. Il sort aujourd'hui son nouvel album baptisé Civilisation. Rendez-vous dans un quart d'heure avec Stéphanie Loire.
Mais avant, une comment dire, toute autre ambiance. Vous nous emmenez dans les coulisses du cabaret Michou.
Mais c'est tout autre chose, hein. Grâce à un nouveau livre qui nous permet de vivre ou de revivre l'ambiance festive de ce haut lieu des nuits parisiennes, La Nuit en Bleu, Cabaret Michou, l'esprit d'un mythe, raconte l'histoire du prince de Montmartre et de ce lieu iconique de la rue des Martyrs, ce temple de la fête et du transformisme qui n'a jamais cessé de se renouveler. Nous serons dans 10 minutes avec la nièce de Michou, Catherine Jacquard, qui, avec les Michettes, poursuit l'œuvre familiale.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS Agri-ECNAPS.
Et les mains ce matin, Anissa Haddadi, elle gratte les pare-brises.
Eh oui, alors je préfère vous prévenir, comme ça vous sortez de chez vous, vous pensez à prendre la gratounette, parce voilà. Que sinon vous allez utiliser
la
raclette.
La pochette de CD.
Sinon vous allez utiliser la pochette de CD, ça c'est pas très bon pour les pare-brises. Ouais. Bon, c'est le retour des gelées ce matin. J'aime bien, c'est mignon. On a moins 3 degrés à Guéret, on a moins 1 à Aurillac et Mulhouse, il fait frais. On a 0 degrés à Bergerac, à Brive, à Strasbourg, à Chartres, à Albi, 2 degrés à Saint-Etienne, 3 à Nantes et Metz, 6 degrés à Niort, 7 à Paris et Nîmes, 9 degrés pour Caen et Ajaccio, 11 à Nice et 12 à Dunkerque. Alors cet après-midi, ça reste frais dans le Grand Est avec 5 degrés à Bourg-en-Bresse, 8 à Belfort, 12 degrés à La Rochelle, 13 degrés pour Paris, 15 à Biarritz, 16 à Perpignan, 19 à Marseille et 20 pour Ajaccio. Alors dans le ciel, on a beaucoup de grisailles ce matin sur quasiment toutes les régions, sauf dans le sud. Le ciel est dégagé et ensoleillé ce matin sur les Pyrénées, les Alpes, la Côte d'Azur, la Provence, la vallée du Rhône, la Corse. Et cet après-midi, le soleil va envahir les deux tiers du pays. On va vraiment avoir du très beau temps sur quasiment toute la France, sauf au nord de la Loire, donc Normandie, Hauts-de-France, région parisienne, Grand Est reste sous les nuages.
Merci Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
L'Allemagne durcit le ton contre les non-vaccinés. Face à l'explosion des cas de contamination, le gouvernement d'Angela Merkel renforce les restrictions et ouvre la voie à l'obligation vaccinale pour les personnels soignants. Emmanuel Macron sur les terres de Xavier Bertrand. Le chef de l'État se rend dans les Hauts-de-France ce matin. Déplacement de 4 jours. Le président se rendra notamment à Guise pour signer le pacte de réussite. Juan Doudou et Juan Lili, c'est le nom de baptême des deux bébés pandas du zoo de Beauval. On connaît aussi le nom du parrain, certain Kylian Mbappé. Et puis le nouvel album de Benabar, On lâche pas l'affaire, deuxième album en moins d'un an pour le chanteur.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Hautement dramatique, Angela Merkel ne s'est pas embarrassée de mots pour décrire la vague de contamination qui touche l'Allemagne. Plus de 65 000 cas positifs ces dernières 24 heures, du jamais vu depuis le début de la pandémie. Et pour les non-vaccinés, la vie va radicalement changer. Fini les restaurants, les cinémas ou les concerts. S'il ne s'agit pas d'un confinement à la mode autrichienne, c'est une mise à l'écart social.
Et l'objectif est toujours le même, hein, pousser les réfractaires à se faire vacciner.
La mesure était déjà en vigueur dans certaines régions. Elle s'appliquera dans tout le pays après un passage ce vendredi par le Bundesrat, la chambre haute du Parlement. Mais dans la capitale Berlin, c'est déjà une réalité. Reportage de notre correspondante Hélène Kohl.
Mario contrôle les passes sanitaires à l'entrée de son bar. Certains clients ne savent pas encore que les tests négatifs ne sont plus acceptés.
On a eu 5 ou 6 personnes non vaccinées. Généralement, elles restent tranquilles, mais il a fallu en calmer quelques-unes.
Un groupe d'amis arrive pour fêter un anniversaire. Sofia se fait refouler. Jusqu'à la semaine dernière, les règles sanitaires étaient rarement contrôlées à Berlin et elle en a bien profité.
Là, je me prends un refus direct, en pleine face. C'est pas agréable. Depuis le début, je trouve que c'est de la discrimination. En fait, on est obligé de se faire vacciner pour avoir une vie sociale. Pas cool.
À côté, il y a un club de fitness. C'est la même règle qui s'applique. Les usagers sont satisfaits, comme Béatrice.
Ça m'enlève le stress de courir à côté d'un non-vacciné. Je trouve ça bien.
70% des Allemands approuvent ce durcissement. Cela correspond exactement à la part des adultes vaccinés ici.
Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Et l'Allemagne n'a pas choisi la voie autrichienne, Emmanuel Macron non plus. Le président écarte l'hypothèse d'un confinement pour les non-vaccinés.
Même si on se rappelle qu'en avril dernier, il avait assuré que le pass sanitaire ne s'appliquerait pas dans les lieux de vie comme les cafés ou les théâtres avant de changer d'avis. Ce matin, dans la Voix du Nord, le président affirme que le confinement des non-vaccinés n'est pas nécessaire puisque le pass existe. Le chef de l'État demande d'ailleurs aux Français vaccinés de se faire les ambassadeurs de la vaccination pour convaincre leurs semblables qui ne le sont pas. Sur l'extension de la troisième dose, Emmanuel Macron préfère attendre la décision des autorités sanitaires avant de se prononcer.
Interview publiée dans la Voix du Nord et ce n'est pas un hasard puisque le président entame un long déplacement dans les Hauts-de-France.
Quatre jours sur les terres qui l'ont vu naître et sur celle du président Les Républicains de la région et candidat à la présidentielle Xavier Bertrand, le chef de l'État se rendra à Aulnois-Emerise pour signer le pacte 2 de réussite, un nouveau plan d'investissement destiné à redonner de l'oxygène à des territoires frappés par la désindustrialisation et le chômage. L'acte 1 avait déjà permis d'investir 80 millions d'euros pour désenclaver la région. Trois ans après, eh bien le bilan est plutôt positif. Reportage Maximilien Carlier.
C'est une route nationale qui relie le nord au sud de l'Aisne. 10 000 voitures et poids lourds y circulent chaque jour. Des ralentissements, des accidents très fréquents. D'ici quelques semaines, début des travaux, il y aura une deux fois deux voies. Jean-Michel Dupuis, membre du MEDEF de Maubeuge et directeur d'une usine de fabrication de verre plat.
En tant qu'industriel, pour nous, c'est crucial. Nous avons une activité verrière qui requiert d'avoir à peu près une cinquantaine de camions tous les jours. Et donc, nous sommes vraiment ravis qu'on arrive au terme de toutes ces difficultés pour faire passer cette Nationale 2 à deux fois deux voies.
Car cela fait 40 ans que les habitants attendent ce doublement. Là, les élus espèrent que ça ira plus vite pour lutter contre la désertification médicale. Principal enjeu de ce pacte 2, Bernard Baudou, maire d'Aulnois-Aymeries.
On est dans une situation dramatique, je le dis, c'est grave, mais il y a des gens qui meurent faute d'un nombre de médecins suffisant sur ce territoire. J'espère que l'avenue du président de la République va permettre de faire des annonces.
Un déplacement à quelques mois des élections présidentielles, reconnaît cet élu de gauche. J'ai mes convictions, insiste-t-il, mais ce qui m'anime, c'est surtout de travailler pour l'intérêt des gens. Aulnois-Aymeries, Maximilien Carlier, Europe 1.
Le bras de fer Paris-Londres sur le dossier des licences de pêche. La France n'aura pas ce qu'elle réclame et s'apprête à reculer.
Paris anticipe un échec des négociations sur le nombre de licences accordées aux pêcheurs français. Un nouveau revers diplomatique que la secrétaire d'État à la mer, Annick Girardin, n'a même pas caché à dissimuler. Il faut nous préparer à des pertes. Sous-entendu, certains n'obtiendront pas le permis de pêcher dans les eaux britanniques. L'État a prévu de compenser leurs pertes via une enveloppe de 40 à 60 millions d'euros.
Le début des négociations salariales dans l'hôtellerie-restauration. Patronat et syndicats tentent de trouver depuis hier un accord pour rendre le métier plus attractif.
Et il y a encore du chemin à faire si l'on en croit les premiers échos en provenance des organisations syndicales. Le patronat propose 10,5% d'augmentation de salaire en moyenne. Insuffisant, répondent les syndicats. Les salariés situés en bas de l'échelle n'obtiendraient que 3,5%, soit 48,50 € brut selon eux. Impossible dans ces conditions de retenir et d'attirer cette catégorie de personnel qui fait défaut. Une deuxième réunion est programmée le 16 décembre.
Elle s'appelle Juan Lili et Juan Dudu. C'est les deux pandas du zoo de Beauval et c'est leur nom de baptême.
Deux prénoms choisis par les internautes. Les deux jumelles pandas nées le 2 août ont eu droit à une cérémonie tout ce qu'il y a de plus officiel en présence de leur parrain et de leur marraine, la championne olympique chinoise Zhang Jiaqi et un certain Kylian Mbappé.
C'est un grand honneur d'être ici. J'en ai pris plein les yeux. C'est vraiment, j'ai été comme un enfant. Et comme on dit, il ne faut jamais perdre son âme d'enfant. On est là pour un événement très spécial. 100 jours après la naissance de nos deux merveilles. Voilà, j'ai la chance et l'honneur d'être le parrain de l'un d'eux. Comme j'ai dit, c'est un honneur et une responsabilité parce que voilà, comme on l'a dit, on est dans ce projet de protéger cette race qui est en voie de disparition et le zoo de Beauval fait tout. J'insiste pour remercier tout de suite toutes les personnes qui travaillent au quotidien dans ce zoo pour faire en sorte de protéger et mettre ces animaux dans les meilleures conditions. J'ai passé une après-midi remarquable et je m'en souviendrai.
Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, parrain donc de ses deux jumelles panda. Il répondait à Yasmina Katou.
On termine en musique. Benabar nous offre un nouvel album.
On lâche rien sort aujourd'hui. C'est le deuxième album en moins d'un an pour Benabar. L'artiste a profité de la crise sanitaire pour écrire et composer une aération de l'esprit et un antidote à la déprime. Naïma Bencheman l'a rencontré.
Lâche pas l'affaire, même quand ça se coule, même quand ça remue, on va pas nous la faire nous.
24 ans que Benabar, l'indocile heureux, ne lâche pas l'affaire. Ce nouvel album est à son image, celle d'un poète béni qui trempe sa plume ironique pour dessiner à coups de mélodie le quotidien de ses contemporains.
Il avait une âme de poète, mais un langage de charretier. Son énorme cœur d'esthète était souvent troublé.
J'ai une passion pour les poètes maudits du 19e siècle et pour toute cette imagerie-là. La poésie, la littérature, c'est quelque chose qui m'obsède de plus en plus. Je suis de plus en plus dans les mots, quitte à m'y perdre un peu, ce qui n'est pas désagréable.
Entre irrévérence et raffinement, cynisme et romantisme, avec On ne lâche pas l'affaire, il distille à coups de bons mots ses messages d'espoir.
Je voudrais dire aux gosses que la vie, je crois, c'est faire du patin à glace. Pour la première fois.
Benabar rêvait d'une carrière dans le 7e art. Ses 14 nouvelles chansons sont comme des scénarios qu'il a filmés sur des partitions.
Jamais battu, on se tient peut-être mal, mais on tient.
Naïma Benchemane, On lâche rien, le nouvel album de Benabar, sorti. Eh bien, c'est aujourd'hui.
C'est noté. Merci beaucoup, Christophe Lamar, pour ce journal. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. Direction Vincennes pour un Quintet en nocturne. Une très belle course au trot attelé qui réunira 16 chevaux, tous âgés de 6 ans, qui en découdront sur la distance de 2100 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Et je n'ai pas hésité à placer en tête de ma sélection Fantasia de Ligny, le numéro 5, idéalement placé en première ligne et qui va se présenter au summum de sa condition physique pour son premier objectif de l'hiver. On lui opposera les numéros 15, Zafiro Jet, qui nous arrive d'Italie précédé d'une flatteuse réputation, 3, Fée de Rangeval, une jument sérieuse, bien engagée et qui va à coup sûr conclure dans les 5 premiers, et 11, Zefiro Gual, un autre concurrent italien dont j'ai vraiment entendu le plus grand bien. Enfin, les numéros 14, Ibra Boko, 1, Fine Pearl of Love, 10, Fakir de Gèvres et 4, Falcano de Well compléteront ma sélection. Mon pronostic, 5, 15, 3, 11, 14, As, 10 et 4.
Vous les avez notés ?
Oui, le 5, le 15, le 3, le 11, le 14, l'As et après j'ai perdu.
10 et 4, des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr, ce sera plus clair. Hein. Allez, cliquez, c'est mieux. Merci beaucoup Thierry Léger et à demain dans la matinale de Thierry Dagiral. 5h39, vous restez avec nous, on vous emmène dans un instant chez Michou.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon réveil à vous, il est 5h41 sur Europe 1 et c'est un beau livre que voilà. Un livre qui rend hommage à Michou, presque 2 ans après la disparition du roi des nuits parisiennes. Dans La nuit est bleue, Cabaret Michou, l'esprit d'un mythe, signé Sylvain Dufour et François Soustre, on parcourt plus de 60 ans d'existence du mythique cabaret de Montmartre. Et pour en parler, Omblin, nous sommes avec celle qui continue d'entretenir la flamme bleue.
Bonjour Catherine Jacquard.
Bonjour.
Vous êtes la nièce de Michou et avec les Michettes, vous poursuivez l'œuvre familiale, ce mythique cabaret Michou rue des Martyrs dans le 18e arrondissement de Paris. Vous avez collaboré à l'écriture de ce livre, illustré de nombreuses et de très belles photos. Alors pour commencer, je souhaite simplement m'inspirer de la question posée à la fin du livre, page 136. Pourquoi aller chez Michou et pourquoi surtout nous y retournons ?
Parce que Michou, c'est la fête, pas de vulgarité, on y vient en famille. Quand les gens arrivent, eh ben, ils repartent avec des étoiles plein les yeux. Ils ont passé un moment extraordinaire et ils souhaitent qu'une chose, c'est revenir chez Michou.
On comprend très vite que la nuit appartenait à Michou et qu'il avait tout compris aux nuits parisiennes. Alors ça a commencé, on remonte un petit peu le temps, ça a commencé par un simple jukebox. Il a très vite compris qu'il fallait se démarquer des autres.
Tout à fait. Il a très très vite compris. Surtout, il adorait la fête.
Donc la musique par ce jukebox, mais il ne faisait pas que diffuser de la musique, il animait, il dansait.
Ah, il animait, il dansait, il avait les copains, donc il faisait la fête. Il s'est toujours, on va dire, Michou s'est toujours amusé dans tout ce qu'il a fait, il a créé. Il n'y avait que ça, la fête, s'amuser, il savait le partager d'ailleurs.
Oui, il amusait les autres, hein.
Ah oui, partager, ouais, oui. Ouais, ouais.
Dans les années 60, à nouveau, il est visionnaire, hein. Il comprend que le costume devient un élément essentiel. En tout cas, important pour faire la fête. Derrière un loup, on fait ce qu'il nous plaît, hein, c'est bien connu. Alors, en se travestissant, le costume devient à la fois une armure, c'est ce qui est écrit dans le livre, mais aussi un moyen d'évacuer sa timidité, c'est ça ?
Tout à fait, parce que Michou a été très timide. Donc, quand il se déguisait, hein, Michou disait « on se déguise, on s'amuse ». Et donc, forcément, là, il arrive à faire des choses qu'il n'aurait pas osé faire derrière. Il y avait derrière ses fossiles qu'il arrive à faire comme ça, de se mettre en femme et de faire des spectacles.
Alors on se passe le mot, le tout Paris afflue au cabaret à Montmartre. Et les stars également, qui sont très nombreuses, que viennent-elles chercher ou plutôt que trouvent-elles ?
Ils aimaient le personnage, hein, Michou attirait les, 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 il est attiré comme le papillon, il attirait tout le monde parce que c'était un amuseur. C'était quelqu'un qui trouvait toujours des choses à créer. Et une fois, par exemple, il y avait une danseuse qui était là, et puis il a disparu, mais dis, il est où ? Et d'un seul coup, il était sur scène habillé avec un tutu. Il a improvisé.
Oui. Et il improvisait aussi beaucoup, tout n'était pas forcément orchestré.
Beaucoup, non, il improvisait.
Parlons de ces spectacles, ils sont très, très nombreux avec les Michettes. C'est aussi ça la clé du succès de Michou. Alors improviser, on vient de le dire, mais renouveler sans cesse les numéros, innover comme il l'a toujours fait finalement.
Tout à fait. Ils arrivent à voir, à comprendre ce qui plaît, on va dire, beaucoup. Et donc il faut que ça soit forcément festif. Et là, tout de suite, ils travaillent sur le numéro qui leur convient, bien sûr. Et donc forcément, c'est un succès.
Alors, il y a beaucoup de travail sur le numéro en soi, et puis il y a beaucoup de travail aussi sur la recherche du costume, sur le maquillage. Il y a un travail
sur la perruque,
immense
sur
en amont.
La gestuelle, sur le playback. C'est beaucoup, beaucoup de travail. À savoir qu'une Michette, tous les jours, remet le travail en question, et ils sont très perfectionnistes.
Chez Michou reste le temple du transformisme. Hein, c'est bien précisé dans le livre. Le transformisme n'est pas un art réservé aux homosexuels. Mais avait-il conscience que grâce à sa personnalité, Michou, grâce à son cabaret, ses spectacles, il participait à faire avancer la cause homosexuelle ?
Bah, il ne l'a pas fait forcément volontairement parce que lui, il était très libre. Hein. Comme il le disait dans son premier livre, il a avoué à ma grand-mère un jour, « J'ai quelque chose à te dire, maman. Voilà, j'aime les hommes. » Elle lui a simplement dit, « Michou, est-ce que tu es heureux ?» Il a répondu oui. Elle dit, « Donc si tu es heureux, moi je suis heureuse. » Et ça a été pour lui la libération totale.
Et il entraîne les gens avec lui, surtout. Il permet aux autres d'être libérés.
Bien sûr, bien sûr.
Catherine Jacquard, je rappelle que vous êtes la nièce de Michou, la gardienne du temple avec les Michettes. Qu'avez-vous ressenti le 3 septembre dernier quand le cabaret à Montmartre a enfin ouvert ses portes?
On était submergés de peur, hein, forcément, parce qu'on avait beaucoup travaillé. On a retravaillé sur beaucoup de choses, les éclairages, le son, même les repas. On a voulu vraiment bien faire. On a vraiment à tous les niveaux travaillé, des nouveaux numéros et beaucoup, beaucoup de choses que les gens découvriront en venant au cabaret Michou, bien sûr. Et donc là, on a été heureux. On était vraiment, c'était un bonheur. Et les gens nous l'ont rendu. C'était comme si on était avec des amis, quoi. Les gens se sont levés à la fin du spectacle pour la première soirée et l'ont acclamé. Et là, c'était la plus belle récompense.
Mi figue, mi raisin, mi fille, mi gamin, mi mort, mi pingouin, moi, je suis Michou.
Merci beaucoup Catherine Jacquard d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle la sortie de ce très beau livre, La nuit en bleu, cabaret Michou, l'esprit d'un mythe, de Sylvain Dufour et François Soustre, avec qui vous avez collaboré, avec une préface signée Annie Dupéré, et c'est aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup.
Merci.
Il est 6h15 sur Europe 1 et c'est l'heure de la prescription culture. Et le vendredi, c'est musique avec Stéphanie Loire.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour à tous. Bonjour Ambline. Bonjour Julien.
Stéphanie, c'est l'embouteillage sur les sorties d'albums. Adèle, Orelsan, Juliette Armanet, Sting ou encore Benabar. Tous se sont donné rendez-vous aujourd'hui.
Oui, alors j'avoue, j'ai d'abord songé à vous proposer de faire un petit matin spécial musique d'une heure et demie, mais j'ai finalement opté raisonnablement pour vous parler de l'album très attendu de l'une des plus belles plumes du rap français, c'est celui d'Orelsan. Alors que son frère Clément Cotentin vient de réaliser une série documentaire poignante sur l'ascension d'Orelsan, qui est diffusée sur la plateforme Amazon Prime Video et qui résume 20 ans d'une ascension familiale et personnelle, et bien sûr dans le rap, le rappeur vient de publier Civilisation, son 4e album. Il a fait irruption par surprise mercredi avec un premier extrait de cet opus, un morceau politique aux paroles féroces qui s'appelle L'odeur de l'essence.
Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis, que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais...
Au cœur de la pré-campagne électorale pour la présidentielle, le rappeur scande une critique incendiaire dans laquelle il s'adresse aux hommes politiques, critique l'emballement médiatique et prophétise le crash de notre société, voire même de notre civilisation noyée dans la nostalgie, la peur, la haine et le désespoir. Parmi les 15 titres de cet opus, le morceau « Dernier vers » écrit par Orelsan, composé par son compère producteur de toujours, Skred, qui apparaît d'ailleurs dans le documentaire dont je vous parlais, et monsieur Pharrell Williams en personne, s'il vous plaît, avec son binôme de The Neptunes, Chad Hugo, on écoute.
Il est déjà minuit, il est déjà minuit. Sois mieux de m'en aller, sois mieux de m'en aller. Je connais ce moment par cœur où tout peut basculer, où tout peut basculer. Je connais déjà la suite, je connais déjà la suite, je connais déjà la suite. Dans deux verres, il est 5 heures. Et je dirais juste un dernier, juste un dernier. She says it's been a minute since her friends are hurting outside.
Tous les autres titres de l'album sont signés par Orelsan en solo, sauf Casseur, Flotteur, Infinity, écrit avec son fidèle comparse de toujours, le rappeur Gringe.
Tu fais de la musique pour les graphistes, dick pic en NFT, un bisou au MLF, je me suicide en CBD, le physique en PLS. J'ai jamais investi dans la crypto, du coup j'ai sorti un bouquin sur les schizos.
Le premier single à radio sonne, lui, plus optimiste, il s'appelle Jour Meilleur et sincèrement, ça fait du bien.
On rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.
Comme dans toutes les chansons de Faria, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi.
L'album d'Orelsan s'appelle Civil. Il sort ce matin et un peu de lumière, ça ne fait pas de mal de temps en temps.
Et un peu de bon rap aussi. Civilisation, le quatrième album d'Orelsan, disponible chez les très bons disquaires, c'est ainsi qu'on dit. Merci Stéphanie Loire.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
6h10 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité avec Alban Le Prince.
La France perd la bataille de la pêche. Annick Girardin, la ministre de la Mer, propose aux 150 marins qui n'ont pas obtenu de licence pour pêcher dans les eaux britanniques un plan de sortie de flotte. Comprenez la destruction de leur bateau en échange d'un chèque. Emmanuel Macron chasse sur les terres de ses rivaux Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Le président entame cet après-midi un déplacement de 4 jours dans les Hauts-de-France. Le chef de l'État, pour qui le confinement des non-vaccinés n'est pas nécessaire en France. C'est pourtant le souhait de plus de la moitié des Français face à une cinquième vague qui déferle sur l'Europe. En Allemagne, Angela Merkel prive l'accès des non-vaccinés aux lieux publics.
Europe Matin.
Voilà pour l'actualité nationale et internationale. On va maintenant au plus près de chez vous. C'est en France, l'info vue par vos quotidiens régionaux.
Bonjour Olivier Schwab.
Bonjour Julien.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le rédacteur en chef de la Dordogne Libre et vous nous emmenez au Salon du Livre Gourmand qui ouvre ses portes ce matin à Périgueux.
Effectivement, voilà, c'est la 16e édition du Festival du Livre Gourmand. Cette année, la nouveauté, c'est que ça a changé de nom. Avant, c'était le Salon, effectivement, du Livre Gourmand. C'est sur 3 jours. Ça commence aujourd'hui et ça se poursuit jusqu'à dimanche. Avec des têtes d'affiche comme Guillaume Gomez, le cuisinier, l'ancien chef de l'Élysée, Philippe Etchebest, l'influenceuse Emmanuelle Jarry et puis évidemment parmi les pâtissiers des noms un peu connus comme Christophe Felder, l'ancien chef pâtissier du Crillon.
Que vous avez joint pour l'occasion d'ailleurs et qui sera présent samedi au salon.
Effectivement, alors on l'a joint dans son atelier, dans sa petite cuisine à Mutique, c'est un village du Bas-Rhin en Alsace dont il est originaire. Et puis il nous a accordé en fait quelques minutes, c'est vraiment un chef qui est très accessible et passionné par son métier. Il a d'ailleurs en fait une idée très précise de son métier de pâtissier. Ses parents, pour la petite histoire, étaient boulangers. Ils ne souhaitaient pas en fait qu'il prenne ce chemin. Mais je crois que là, c'est la passion qui l'a emporté. Et du coup, même si c'est un métier pour lui qui est assez chronophage, hein, il explique que c'est un travail de longue haleine. Pour lui, ça reste un métier plaisir qui réalise avec toujours autant de passion et de ferveur.
Alors vous l'avez dit, c'est l'ancien chef pâtissier du Crillon. C'est aussi l'auteur de Pâtisserie. Peut-être que ça parlera davantage à nos auditeurs. C'est un livre, c'est un best-seller. Ça s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, je crois.
Effectivement, Pâtisserie, c'est un peu le livre qu'il a révélé avec les éditions de La Martinière. C'est un livre qui s'est vendu, comme vous l'avez dit, à plus d'1 million d'exemplaires. Derrière, ça lui a donné donc des envies de faire des petits. Il s'est associé là, il y a 4-5 années avec un jeune chef pâtissier aussi qui s'appelle Camille Lesec et avec lequel il a collaboré sur notamment la petite pâtisserie. Cette année, en fait, ils vont proposer la petite biscuiterie. Et c'est un binôme qui fonctionne bien, en fait. C'est ce qu'il nous explique dans l'article qu'on lui consacre. Il prend du plaisir à sélectionner les ingrédients, à trouver les bons mariages, les bons habillages pour toujours nous surprendre en fait et surprendre surtout notre palais à travers des desserts, des pâtisseries et des biscuits. Donc c'est une collaboration vertueuse avec Camille Lesec.
Et ce plaisir, samedi à Périgueux, il va le transmettre, mais pas uniquement en signant des autographes, d'après ce que j'ai compris. Hein.
Alors voilà, il propose effectivement au public de Périgueux de le retrouver sur la scène du théâtre à 11h30 samedi pour une démonstration. Et puis là, il leur a réservé une recette un peu secrète. Alors on a creusé le fil pour reconnaître quels étaient les composants en fait, de cette recette. Donc il a bien voulu nous en dire davantage. C'est une recette qui va revisiter... hérité d'un arrière-grand-oncle alsacien. Sur le pain d'épices, je ne sais pas, Julien, si vous savez, mais le pain d'épices en Alsace, c'est un peu une religion. Donc là, oui. à l'approche des fêtes, Christophe Felder s'est dit, voilà, en prenant le train, je vais embarquer dans mes bagages un peu de pâtes. Et puis, il va vraiment réaliser une démonstration sur une heure avec le public et avec le plaisir surtout de pouvoir partager cette recette à la fin, puisque ça sera suivi d'une dégustation.
Merci beaucoup Olivier Schwab pour cette immersion avant l'heure au Festival du Livre Gourmand, immersion signée La Dordogne Libre, l'un des nombreux journaux qui font vivre l'actualité régionale, et ils sont précieux. Encore merci Olivier et bonne journée.
Merci à vous Julien, bonne journée, à bientôt, au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon vendredi à tous sur Europe 1, il est 5h56. Dans un instant, la météo, le journal et une courbe à la hausse.
Oui, c'est l'autre flambée qui inquiète avec celle des contaminations au Covid. La flambée des prix à la consommation, énergie, matières premières, céréales, industrie, services et transports. L'inflation touche tous les secteurs et toutes les économies. Asie, États-Unis, Europe, les prix montent en flèche et contrairement à ce qui nous avait été annoncé il y a encore quelques semaines, ça pourrait durer au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine, reconnaît Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Alors, quelles conséquences pour nos salaires, nos épargnes et plus généralement l'économie de manière générale? Est-ce que l'inflation menace la reprise? Eh bien, toutes ces questions, on va les poser dans une dizaine de minutes à l'économiste Olivier Babeau. On écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
Ils étaient beaux, ils dansaient comme des dieux, mais ne chantaient pas. L'histoire rocambolesque
mais ils chantent, hein.
Est cruelle. Ce ne sont pas eux, ce n'est pas la voix des deux artistes de Mini Vanilli. Dans 20 minutes,
mystère est entier.
On racontera ça dans 20 minutes. À tout de suite.
Il est 6h, bon réveil à tous. Des Hauts-de-France au Vatican, Emmanuel Macron est décidément partout. Après un déplacement dans le Nord ces 4 prochains jours, le président est attendu la semaine prochaine au Saint-Siège. Vous aussi, vous avez régulièrement des migraines. Un Français sur 10 est concerné. Comment soulager la douleur? Une certitude, l'automédication est le pire des remèdes. Et puis le sujet peut vous paraître futile, c'est la journée mondiale des toilettes. La moitié de la population de la planète n'y a pas accès. Chez nous aussi, avec la crise sanitaire et la fermeture des restaurants, trouver des sanitaires en ville est synonyme de galère. Reportage à suivre.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal de 6h vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Retour aux sources. Emmanuel Macron dans les Hauts-de-France, sa région natale cet après-midi. Un déplacement de 4 jours sur les terres de 2 adversaires potentiels, Marine Le Pen et Xavier Bertrand.
Et dans une semaine, Emmanuel Macron sera reçu au Vatican. Une visite non pas en tant que chef de l'État, mais futur président du Conseil de l'Union Européenne. Un poste qu'il occupera dès le 1er janvier prochain.
Virginie Rivas, c'est la deuxième fois qu'Emmanuel Macron se rend au Saint-Siège depuis le début du quinquennat. Après une visite d'État en 2018, cette fois, l'entretien sera privé, plus court aussi. Virginie, de quoi vont parler les deux hommes ?
Écoutez, le président de la République a surtout profité de l'opportunité de la présidence française de l'Union européenne qui débutera en janvier pour redemander audience au pape François. Cette demande d'audience a été faite juste après le G20 de Rome, fin octobre. Les sujets en cours qui peuvent intéresser le pape sont nombreux et notamment la crise des migrants en Biélorussie, mais aussi le climat et les suites de la COP. Au Vatican, on le dit, ça n'est pas courant de visites en un mandat, mais ça peut arriver. Faute d'avoir réussi à faire venir le pape en France, c'est le président qui vient à lui, quelques semaines seulement après son premier ministre Jean Castex. Le 11 novembre, le président avait glissé au nonce l'ambassadeur du pape en France qu'il voulait inviter le pape François à saluer les jeunes Européens. Sans qu'on sache ni où ni quand, l'Élysée, pour l'instant, ne fait pas de commentaires.
La crise des migrants, Virginie nous le disait à l'instant, ce sera l'une des priorités d'Emmanuel Macron à la tête du Conseil de l'Union européenne.
Près de 400 personnes bloquées depuis des jours à la frontière biélorusse ont été rapatriées hier vers l'Irak. Tous les autres migrants sont relogés dans un centre logistique, a précisé Minsk, un vaste hangar où s'entassent près de 3000 personnes.
Accueillir ces réfugiés, voilà ce que propose Yannick Jadot, le candidat écologiste à l'élection présidentielle, était invité à la télévision. Hier soir, il en a profité pour détailler un point crucial de son programme, l'immigration.
Moi, je ne vois pas de problème avec l'immigration en France aujourd'hui.
C'était la question.
On a les réfugiés. Ça relève de notre devoir d'humanité, ça relève de nos obligations au regard du droit européen, au regard du droit international. Il y a le regroupement familial. Ça relève de nos obligations humaines, ça relève de nos obligations au regard du droit international. Quand j'entends la droite dire « on va réduire de 2/3 le regroupement familial », qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, le regroupement familial, c'est la famille proche. Ce n'est pas votre cousin, c'est vos enfants, c'est votre femme. Donc, en fait, quand on écoute les Républicains, on prend un enfant sur 3. C'est totalement absurde. Et puis, il y a l'immigration économique. Moi, j'aimerais que les candidats républicains nous expliquent, les Républicains, parce que je pense qu'ils n'ont plus grand-chose de républicains, nous expliquent comment on fait avec les 30 000 médecins migrants qui font tourner l'hôpital public aujourd'hui.
Yannick Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts sur France 2 hier soir.
La troisième dose pour tous, pas à l'ordre du jour. Dans une interview à La Voix du Nord publiée hier soir, Emmanuel Macron explique attendre l'avis des autorités sanitaires. La moitié des plus de 75 ans ont pour l'instant reçu leur dose de rappel.
Et il n'y a pas que le Covid qui nous empoisonne la vie. Un Français sur 10 souffre de migraines. Alors comment les soulager ? C'est l'enjeu du congrès de spécialistes réunis à Montpellier depuis hier. La plus mauvaise idée, l'automédication, en allant fouiller dans son armoire à pharmacie. Les explications d'Afsane Saboui.
En fait, il y a un malentendu sur la définition même de la migraine. Il ne faut pas la traiter comme une douleur à la tête. C'est une inflammation des méninges, les membranes les plus externes du cerveau. C'est pour ça que le paracétamol est rapidement dépassé quand on a des migraines intenses ou récurrentes. Et c'est pour ça aussi que les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou l'aspirine sont beaucoup plus adaptés. Quant aux médicaments qui contiennent de la caféine ou de la codéine, la neurologue Anne Ducrot conseille carrément de les éviter.
L'usage d'antalgiques opiacés, c'est le tramadol, c'est l'exprime, n'est pas du tout conseillé. Parce qu'eux aussi, ils augmentent beaucoup le risque de passer en céphalée chronique avec surconsommation médicamenteuse. Parce que plus le patient va prendre du traitement, moins son cerveau va y être sensible. Et d'autre part, parce que le patient risque de développer un état proche de l'addiction.
Et si les crises se répètent au point qu'il faut prendre chaque mois des médicaments pour se soulager, c'est vraiment le signe qu'il faut consulter un généraliste pour changer de braquet. On passe alors à un traitement de fond, quotidien, un anti-inflammatoire bien dosé ou un triptan, et on réduit nettement la fréquence des crises.
Afsane Saboui, spécialiste santé d'Europe 1.
C'est un sujet qui peut prêter à sourire, mais qui n'a pourtant rien de drôle. En 2021, la moitié des habitants de la planète n'a pas accès à des toilettes dignes. Un chiffre communiqué par l'UNICEF à l'occasion de la Journée internationale des toilettes.
En France, trouver des toilettes en ville relève parfois du parcours du combattant aussi. Crise sanitaire égale fermeture des bars, cafés et restaurants. Alors à Paris, les toilettes publiques, les sanisettes, ont retrouvé toute leur utilité. Le reportage d'Arthur Pereira.
Bienvenue dans un sanitaire de la ville de Paris.
Cette annonce, 12 millions d'utilisateurs l'ont entendue l'année dernière. Et comme Mario Guillaume, ils avaient tous une bonne raison de la faire retentir.
C'est compliqué d'aller aux toilettes sans payer, quoi. Du coup, l'idée d'avoir des toilettes gratuites accessibles, c'est bien.
Si tu rentres à 3h du mat et qu'il n'y a plus rien d'ouvert et t'as besoin de faire tes besoins, bah, tu y vas. T'es bien content que ce soit là.
435 sanisettes sur 20 arrondissements et un rôle majeur dans l'hygiène retrouvé. Grâce à la pandémie, reconnaît Oriane.
Avec le Covid, étant donné que la plupart des toilettes dans les restaurants ont été fermées, on s'est vraiment rendu compte de l'utilité de ces toilettes.
La lycéenne ne le sait peut-être pas, mais la sanisette, close, protectrice, a aussi libéré les femmes, comme le raconte Albert Asserap, directeur général des nouveaux usages chez JC Deco.
À l'époque, il y avait des urinoirs qui ont tous été supprimés. Le fait de fermer, qu'on puisse s'isoler, a ouvert pour la première fois en 1980 des sanitaires aux femmes sur l'espace public.
Aujourd'hui, et pour votre information, Julien, je ne sais pas si vous le saviez, mais Paris est la première ville au monde à avoir installé des toilettes publiques. C'est en 1981.
Ouais. 1981
ouais. Paris, première ville du monde.
C'est récent, dites donc. Merci beaucoup, Romain Noquet, pour ce journal.
Europe 1, il est 6h06, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange, c'est le grand retour de la Ligue 1 ce soir.
Oui, avec une belle affiche, Monaco-Lille, le troisième de la saison dernière, reçoit le champion en titre. Sur le papier, ça fait saliver. Sauf que depuis le début de la saison, Monégasque comme Lillois sont sur courant alternatif. Respectivement 11e et 12e, ils n'arrivent pas à enchaîner les bons résultats. Le milieu de terrain lillois, Benjamin André, en est conscient. Il espère un tournant ce soir.
quand tu es champion, il y a une certaine attente. On le savait tous avant de démarrer la saison que ça allait être très difficile de réaliser le doublé. Mais évidemment que ce qu'on fait depuis le début de la saison, c'est pas satisfaisant. Mais on est les premiers à pas être satisfaits. Il faut qu'on fasse basculer de notre côté ces petits détails qui l'année dernière étaient pour nous et cette année le sont moins.
Monaco-Lille, c'est à 21h et c'est à suivre dans Europe 1 Sport. Un résultat pour clore la page foot. Les filles du PSG sont allées s'imposer à Madrid en Ligue des Champions hier. Victoire 2-0 contre le Real. Un bon moyen d'oublier les secousses de l'affaire Amraoui.
On aura aussi droit du rugby ce week-end avec une affiche de rêve.
Oui, les Bleus reçoivent la Nouvelle-Zélande au Stade de France demain soir, des All Blacks qu'ils n'ont plus battus depuis 12 ans, ça date. Un redoutable adversaire que beaucoup de titulaires samedi n'ont jamais affronté, mais le sélectionneur Fabien Galthié préfère dédramatiser l'événement.
Ce sera notre 20e test. Tous les matchs sont capitaux. Depuis le début, depuis le premier, depuis le France-Angleterre de février, il n'y a pas un match qui n'est pas capital et qui n'est pas charnière. Celui-là, évidemment, quand on connaît la qualité de l'adversaire, bien, il a du relief. Mais nous nous challengeons au quotidien pour être les plus performants possibles.
Et pour ce choc, quelques changements dans le 15 de départ excitent la paire d'ouvreurs Ntamack Jalibert. C'est le Toulousain qui récupère le maillot floqué du 10, tandis que le Rochelais Jonathan Danty est titularisé au centre.
Un mot de tennis, Martin.
Oui, on connaît 3 des 4 qualifiés pour les demi-finales du Masters de Turin. Hier, Alexander Zverev a rejoint le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Dans l'autre demi, Daniil Medvedev connaîtra son adversaire dans la journée. Et puis un mot sur un mouvement qui prend de l'ampleur, le hashtag Where is Peng Shuai. Où est Peng Shuai, la joueuse chinoise dont on est sans nouvelles depuis qu'elle a accusé un cadre du Parti communiste chinois de viol. Enfin, si vous n'êtes pas très foot, il y a aussi du basket ce soir, avec là aussi un match de gala. L'ASVEL reçoit le Grand Barça en Euroleague. Coup d'envoi 21h.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
C'est la hantise des consommateurs et des épargnants, le cauchemar des entreprises et des gouvernements. L'inflation, elle est de retour et peut-être pour longtemps. On en parle dans un instant avec l'économiste Olivier Babot. A tout de suite.
5h, 6h30, Europe Matin.
Bon début de matinée, il est 6h11 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Julien, est économiste et président de l'Institut Sapiens.
Bonjour Olivier Babot.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour nous aider à comprendre cette hausse des prix inédite depuis bien longtemps. L'inflation qui a atteint chez nous le mois dernier, plus 2,6% sur un an. C'est plus de 4% dans la zone euro et même plus 6% aux États-Unis. Est-ce que cette flambée vous inquiète ?
La vraie question que les économistes se posent, c'est évidemment, est-ce que c'est une vraie inflation, c'est-à-dire que ça va être un mouvement cumulatif auto-entretenu du niveau général des prix, donc que ça va être durable, ou est-ce que c'est ponctuel ? C'est difficile de répondre à cette question, il y a des arguments qui vont dans les deux sens. Est-ce que c'est vraiment le retour de l'inflation qu'on attendait un petit peu pour longtemps ? C'est pas totalement sûr, ça peut être une poussée ponctuelle par exemple due au prix de l'énergie, il peut y avoir une absence d'entraînement, d'effet d'entraînement sur les salaires qui fait qu'on n'aura pas cette fameuse boucle. Donc, c'est pas complètement sûr, mais d'autres personnes peuvent le penser.
Comme Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a confié mercredi que cette inflation allait durer jusqu'à la fin de l'année prochaine.
Oui, alors c'est intéressant parce que les hommes politiques, les gouvernants, ils savent qu'il y a un effet auto-réalisateur, une prophétie auto-réalisatrice dans ce qu'ils déclarent. Et donc ils veulent éviter parfois des déclarations. Donc si vous déclarez que les prix vont augmenter et que c'est durable, vous déclenchez derrière plein de choses. Parce que vous déclenchez des demandes sur les salaires de s'augmenter. Et donc vous réalisez ce que vous prévoyez. Et c'est ce que vous avez envie d'éviter. Donc vous avez intérêt à dire que non, il n'y aura pas d'inflation durable. Parce que derrière, ça déclenche plein d'anticipations que vous voulez éviter.
Si ce scénario, celui de Bruno Le Maire, venait à se réaliser, c'est-à-dire une hausse des prix qui se poursuit à ce rythme et ce jusqu'à la fin de l'année prochaine, qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence ? Qu'est-ce que ça aurait pour conséquence pour nous autres consommateurs et épargnants ?
Bon, déjà, il faut dire que revenir dans un monde où il y a un petit peu d'inflation est plutôt une bonne chose. Hein. L'objectif de la Banque centrale, c'était d'avoir une inflation sous les 2%, mais certainement pas une inflation négative, évidemment encore moins une déflation qui est vraiment catastrophique. Et puis, on a pu avoir des taux extrêmement bas. Et ça voisine, enfin, ça va avec ce monde très bizarre des taux d'intérêt négatifs dans lequel on a pu vivre il y a quelques mois. Et ça, c'était mauvais pour tout le monde. Et c'était l'économie qui marchait sur la tête et c'était pas possible. Donc, on revient un petit peu dans une vraie économie. Bon. Un petit peu d'inflation, c'est pas mal aussi parce que l'inflation, elle fait quoi? En fait, elle ruine le créancier et elle profite au débiteur. Elle profite à celui qui travaille aussi et elle, elle est un petit peu moins bonne pour l'épargnant qui voit une partie de son épargne écornée. Elle a cet effet-là pour l'État d'un allègement de la dette, hein, puisque vous remboursez dans un argent qui vaut moins, si vous voulez,
ce que vous avez emprunté sur le moment. Dans une certaine mesure, parce que pour les pays fortement endettés, il y a une hausse des taux d'intérêt, et là, ça peut devenir plus compliqué.
Et oui, il voit ça avec un très très grand intérêt. Alors, il y a autre chose qu'on dit souvent chez les économistes, c'est que l'inflation, c'est un impôt non voté. Bah oui, parce que quand vous avez, par exemple, des plafonds et des moments, par des seuils à partir duquel vous passez à un autre taux d'inflation, un autre taux d'imposition, l'inflation, elle vous permet de faire passer les gens de seuil sans qu'ils se soient vraiment enrichis. Donc, en fait, les gens payent plus, sans peut-être d'ailleurs s'en rendre compte. Ils ont peut-être parfois l'impression de s'être enrichis, mais ils payent plus sans que vous ayez augmenté les impôts, c'est assez subtil.
Donc un peu d'inflation, c'est pas forcément négatif, c'est même salutaire, c'est ce que vous nous dites. En revanche, les plus 6% là, qu'il y a eu le mois dernier aux États-Unis, c'est pas un peu d'inflation, c'est quand même beaucoup.
Oui. Absolument. Alors là, si ces 6% se poursuivent, c'est catastrophique, mais on peut vraiment penser que c'est dû à cet effet d'injection massive, à cet effet aussi sur les prix de l'énergie qui est peut-être plutôt conjoncturel, et on peut espérer que ça durera pas. Mais 6% de façon durable, c'est très inquiétant parce que vous pouvez avoir cette machine terrible, ce cercle vicieux d'augmentation des prix, de rattrapage derrière des salaires qui font que vous êtes aussi obligé d'augmenter les prix. Et là, ça donne ce qu'on connaît bien, évidemment. Historiquement, c'est cette hyperinflation qui va complètement désorganiser l'économie et qui est profondément malsaine. Ouais.
Alors justement, de nombreuses banques centrales comme la Fed aux États-Unis commencent à réagir. Elles arrêtent de soutenir l'économie en rachetant la dette des États. En clair, elles ralentissent les rotatifs qui font tourner les planches à billets. C'est le cas partout dans le monde, sauf en Europe. La BCE, elle, préfère attendre. Pourquoi ?
Pour l'instant, peut-être qu'elle sent que l'inflation revient moins fortement, mais il est évident que un jour ou l'autre, la BCE va aussi devoir s'y mettre. Ils vont devoir ralentir leur achat d'actifs. Ils vont devoir augmenter les taux, pareil aux États-Unis. Et c'est là peut-être que arrive l'effet un petit peu néfaste pour les États, parce que jusque-là, on s'endettait à taux nul et même parfois à taux négatif, c'est-à-dire que c'était vraiment très intéressant. On s'allégeait la dette énormément en continuant à s'endetter. Et la France et d'autres pays en ont énormément profité et peut-être que la fin de la récréation est en train d'être sifflée, la fête est finie parce que les taux vont à nouveau augmenter et là il va falloir qu'on fasse attention à nos sous.
La fête est finie, merci, c'est en tout cas ce que vous nous dites. Merci Olivier Babot de nous avoir éclairé sur cette inflation. Inquiétante ou non, on verra bien les mois qui viennent. Je rappelle que vous êtes économiste et président de l'Institut Sapiens. Merci à vous.
Il est 6h17, vous restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la partition de Milli Vanilli.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h19 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Voici les principaux titres de ce vendredi avec Alban Le Prince.
La troisième dose bientôt généralisée. Emmanuel Macron dit attendre l'avis des autorités sanitaires dans un entretien à La Voix du Nord. Le président exclut en revanche un confinement des non-vaccinés qu'il ne juge pas nécessaire. Les non-vaccinés qui sont dans le viseur de l'Allemagne, Angela Merkel a annoncé hier qu'ils seraient désormais interdits d'accès dans les lieux publics comme les restaurants. Tous les migrants pris en étau à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, relogés depuis hier dans un centre logistique situé à proximité, des centaines d'autres de nationalité irakienne ont été rapatriés ce jeudi.
On termine avec votre partition, Omblin. C'était le 19 novembre 1990. Aux États-Unis, le duo Milli Vanilli reçoit un Grammy Award, la récompense musicale suprême. Alors au sommet de leur gloire, les deux jeunes garçons ne se doutent pas encore que la chute qui les attend sera vertigineuse.
La déchéance violente et cruelle est à la mesure de leur fulgurante ascension. Milli Vanilli crucifié sur l'autel de la pop après un succès démesuré, comme a pu l'écrire le journal Libération. Comme si le duo franco-allemand a son corps défendu avait encaissé les coups pour tous les autres, pour tous ceux qui ont trompé leur monde en ne chantant pas leurs chansons.
« Milli Vanilli, à l'origine, c'est l'histoire de deux garçons partis de rien.
Et ça, les Américains adorent. Robert Pilatus est le fils d'un soldat américain et d'une stripteaseuse allemande, abandonné puis adopté par une famille à Munich. Fabrice Morvan, né à Paris dans une famille de mélomanes, doué pour le breakdance, ces deux danseurs exceptionnels tissent dès leur rencontre une profonde amitié.
Rob Pilatus et Fab Morvan créent leur premier groupe à Munich et sortent un titre en Allemagne.
La chanson n'est pas entrée dans les annales, mais elle leur permet d'être repérée par le producteur allemand Frank Farian. C'est lui qui est derrière le succès de Boney M. Et l'histoire est connue. Le leader du groupe disco, Bobby Farrell, ne chantait pas non plus. Ça, c'est la spécialité de Frank Farian. Recruter des beaux mecs lookés, des purs produits marketing. La capacité vocale passe après.
Le duo baptisé Milli Vanilli devient le visage des tubes enregistrés par d'autres.
Oui, au moment de l'avènement du clip vidéo et de la chaîne musicale MTV, la supercherie fonctionne. Personne ne se pose la question sur l'accent anglais parfait des deux artistes qui, je vous le rappelle, sont français et allemands. Milli Vanilli vend en quelques mois 14 millions de disques dans le monde.
En 1989, en plein concert, une bande playback se met à bugger. Les rumeurs commencent alors à circuler.
Le poteau rose est révélé à un journaliste par le rappeur qui prête sa voix à Milli Vanilli, confirmé ensuite par le producteur Frank Farian lui-même lors d'une conférence de presse. Une vilaine vengeance après que Rob Pilatus et Fab Morvan aient refusé de promouvoir le second album si leur voix ne figurait pas sur l'enregistrement. Milli Vanilli est lâché de toutes parts. Les fans hurlent au scandale et menacent de porter plainte. Le disque est retiré de la vente. Summum de l'humiliation. Les Grammys leur retirent leur récompense. Et ce qui est ahurissant, c'est que ni la maison de disques Arista, qui a gagné beaucoup d'argent, ni le producteur ne seront impactés et inquiétés. You know it's true de Milli Vanilli, ou le scandale de ce qu'on appelle le lip sync. C'est le playback dans la musique pop.
D'accord, merci beaucoup Ombline. Restez avec nous, on fait pas de playback en revanche.
Non,
dans un instant, votre matinale se poursuit en direct avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin,
6h27 et on se quitte ici, mais on se retrouve lundi.
Excellente matinée qui se poursuit sur Europe 1 avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Ombline,
bonjour
Julien. Oh, vous avez bien mérité votre week-end tous les deux.
Oh oui.